petite info supplémentaire, donc Antoine et Christiane, le pasteur principal, sont en déplacement. Ils sont à la Trompette, donc à 2 km d'ici, dans l'église du pasteur Jean-Denis. Donc voilà pourquoi ils ne sont pas présents. On a aussi Serge et Lisiane, puis Thierry et Gisèle, les anciens, qui sont aussi dans une autre église. Donc vous voyez, on est là, mais partout, on est ailleurs. C'est pas beau, ça? L'église est missionnaire. Alors, je vais reprendre la prédication que j'ai faite la dernière fois. Alors, excusez-moi pour ceux qui n'étaient pas présents, parce que forcément, j'ai commencé quelque chose. C'est les 7 piliers. Les 7 piliers pour vivre cette vie comme Jésus l'a vécue, comme Jésus nous incite à la vivre. Et j'avais évoqué déjà 2 piliers, les 2 premiers. Et là, on va attaquer les 2 suivants. Et je vais juste faire un petit résumé, comme ça au moins tout le monde est plus ou moins sur la même longueur d'onde. En même temps, je vous invite à écouter les prédications qui ont été faites les mois précédents, les semaines précédentes, que vous ayez été présents ou non. On a un site sur le site internet, tous les médias sont enregistrés, donc vous pouvez écouter. Comme ça, dans votre voiture, quand vous allez au boulot, vous avez raté une prédication, bah, au moins vous êtes connecté à l'église. Moi, c'est ce que je fais. Si je n'étais pas là, eh ben, je vais écouter la prédication, je n'étais pas là. Comme ça, on est connecté avec ce qui se passe dans le corps de Christ. On n'est pas juste là le dimanche pour entendre une parole, et puis voilà. Et parfois, il y a des choses qui nous ont parlé, et réécouter, ça nous permet vraiment d'enraciner les choses, d'aller plus loin, parce qu'on n'a pas le temps de tout noter. Et effectivement, on vit ce qu'on vit sur l'instant, mais parfois, ça peut nous parler encore plus. Donc, je vous avais parlé du fait que la première fois, c'était le fossé qu'il peut y avoir entre ce que la parole de Dieu nous enseigne et ce que nous vivons réellement. Et comment comprendre ce fossé-là, puisque Dieu nous a déjà tout simplement promis des choses, on a déjà acquis des choses à la croix, et pourtant, on doit quand même les appeler de manière réelle et vivante dans notre réalité. Et cet écart-là, parfois, est difficile à gérer parce qu'on est préoccupé, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans notre vie. Et ce n'est pas évident. Et c'est en ça que Christ fait de nous des disciples, des gens disciplinés qui arrivons réellement à travailler régulièrement sur notre foi. Alors, le premier point, c'était que avant de vaincre le diable à la croix, eh bien, Jésus vivait déjà en tant que vainqueur. D'accord ? Son attitude, sa façon de vivre, sa façon d'être était déjà victorieuse. Il n'a pas attendu la croix pour être victorieux. Il a déjà manifesté la victoire avant même d'aller à la croix. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que forcément, en tant que chrétien, souvent on reste bloqué sur la croix. C'est ce que je vous avais dit. Ah, la croix, j'ai tout, c'est génial. Oui, la croix, c'est le don de Dieu, c'est là où la grâce est libérée, c'est là qu'il y a le salut de nos péchés, c'est là où les écritures se réalisent, les prophéties, excellent. Mais pour toi, c'est le démarrage. À partir du moment où ta foi est née et que tu crois en Jésus-Christ, tu crois qu'il est mort et ressuscité et qu'il te donne la vie, maintenant il faut démarrer quelque part. Et souvent le problème, c'est qu'on va chercher nos réponses à la croix dans notre manière de vivre, alors que ce n'est pas à la croix que tu dois chercher certaines réponses. C'est dans la façon que Christ, la manière dont lui a vécu, dans certaines situations, au moment où Lazare est mort, tu vois, et comment il a réagi? Au moment où il manifeste la compassion, comment il a fait? Au moment où il veut manifester son amour, mais comment tu fais, Jésus? Parce que c'est là où on a l'exemple parfait. Tu as des exemples dans ta réalité, dans l'église peut-être, tu regardes quelques personnes, quelques anciens, et tu dis, mais lui, il a quelque chose, je veux, mais ce n'est pas Jésus. Donc c'est important d'avoir des gens qui nous entourent, très bien, mais c'est important d'aller à la base, là où l'exemple est parfait. Et l'exemple parfait, c'est Christ. Ok ? Donc, la croix, c'est le feu d'artifice qui éclaire nos ténèbres du passé et qui nous ouvre un chemin. C'est le démarrage pour nous. Et c'est important que la croix soit enracinée en nous. Comprendre que ce sang qui a coulé sur nos vies nous sépare de notre vie passée, que le passé est passé, que je peux vivre une vie nouvelle. Où toutes mes angoisses, mes craintes, mes problèmes identitaires, tout ça, je le laisse derrière moi et je me redécouvre en Jésus-Christ. Ça, c'est important. C'est la base de la vie chrétienne. Mais après, il faut aller plus loin. Et C'est Jésus qui, plusieurs fois, on va lire dans la parole de Dieu qu'il faut marcher. Il faut marcher, il faut être en action. Et donc, un des versets principaux que je vous avais donné, c'était que en Jésus-Christ, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, quand je rentre dans ce chemin-là, une porte s'ouvre et Dieu dit, maintenant, dans ta position, ton identité d'enfant de Dieu, toutes sortes de bénédictions te sont déjà promises et données. C'est acquis. Mais Paul dira, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut courir de manière à remporter ce prix-là. Notre espérance, c'est le salut. Et qu'il y a une façon d'être, une façon de vivre, non seulement pour posséder les bénédictions, les faveurs et les promesses de Dieu, mais qu'il y a aussi une façon de fonctionner pour aller au bout et qu'il y a une manière de faire, qu'on ne court pas n'importe comment. Je vous avais donné ces versets qui disent que, eh bien, parfois on a une attitude, on tourne en rond et puis notre fonctionnement n'amène rien, il n'y a aucun fruit dans notre vie. Pourtant, on peut être très actif au niveau de notre foi, on peut avoir une discipline de fer et pourtant se disputer tous les jours avec notre femme, s'énerver sur nos enfants, être mauvais au travail et pourtant tu es un bon chrétien d'après toi. Tu comprends ce que je veux dire ? Il y a parfois un décalage entre ce que Dieu nous promet et notre réalité. Donc le premier point, c'était la clarté de la vision. Il faut que ta vision dans ta vie soit claire, ta vision spirituelle, mais ta vie aussi dans toutes les choses concrètes du quotidien. Proverbe 29, 18 nous dit « Celui qui n'a pas de vision est sans frein. » Il roule, il est sur l'autoroute, il n'y a pas de frein, il arrache tout ce qui est devant lui, il fait n'importe quoi. D'accord ? Ensuite, je vous avais donné ce verset, Jean 5, 19, « Le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire du Père. » L'exemplarité du Père, et puis il s'attend toujours aux recommandations du Père pour agir. Ça va ? Alors, Jésus, lui, il vivait dans une direction claire. Il ne courait pas dans tous les sens. Il ne se dispersait pas. Il y avait sa mission, il savait ce qu'il devait accomplir, et il ne dérogeait à rien, notamment lorsque Pierre est venu et lui a dit « Mais tu sais, ce serait bien que tu restes un peu avec nous. » Et là, qu'est-ce qu'il lui a dit ?« Arrière de moi, Satan !» Et la tentation, il lui dit « Non, tout de suite !» Parce qu'il sait où il va, il sait que son objectif, c'est d'aller à la croix. Parce que c'est cette croix qui nous rachète, ok ? Il ne voyait qu'à travers les yeux du Père. Pourtant, il avait sa propre volonté, il avait envie de faire des choses, mais il était animé de la volonté du Père, puisqu'il est le Fils de Dieu. Alors, aujourd'hui, beaucoup vivent sans direction, sans objectif éternel. Je n'ai pas d'objectif éternel. Je suis chrétien. C'est bien, je prie, mais je n'ai pas d'objectif éternel. Et pourtant, Jésus a dit qu'à un moment donné, il va nous réclamer les comptes de ce qu'il a déjà déposé dans notre cœur. Donc, on n'a pas juste un Dieu qui offre, qui donne comme ça, mais qui dit, tu vas faire prospérer ce que je t'ai donné. Alors, est-ce qu'on est orienté sur le fait, Seigneur, ok, tu m'as donné le salut, j'ai accès à la vie éternelle, tu m'as libéré de mon passé, mais maintenant, je veux œuvrer dans ton royaume, ici sur terre, parce qu'un jour, je serai avec toi, mais tu m'as donné des choses pour que réellement je sois une bénédiction. Est-ce que c'est un de tes objectifs ? Parce que si ce n'est pas un de tes objectifs, tu vas forcément retomber dans tes travers, qui sont la chair, s'occuper de toi, s'occuper de moi, tomber dans l'égocentrisme. Et pourtant, tu seras là tous les dimanches. Parce que tu dis que c'est important. Vous voyez, c'est ce grand écart. Et on est tous concernés. Parce que comme le dit si bien Thierry, on est tous faits de la même pâte. On a nos faiblesses, on a nos failles. Donc le premier point, c'est avoir cette vision claire. Où est-ce que je vais dans ma vie, dans ma réalité ? Je vous avais dit, comment j'éduque mes enfants pour que réellement ils puissent avoir cette pensée de l'éternité ? Comment je me comporte avec mon épouse pour que notre foyer soit un foyer où règne l'amour, la paix ? Comment je fonctionne au travail pour être un témoignage vivant ? Comment je parle ? Comment je me déplace ? Comment je m'habille ? Et ça va sur toutes ces choses-là. Et je vous ai dit, on ne va pas faire une règle, on ne va pas commencer à faire des règles de ce qu'il faut faire, pas faire, parce que sinon on tombe dans ce légalisme que l'Église a pu être et peut être encore aujourd'hui, de « tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ceci, et puis tu regardes l'autre, mais regarde celle-là, c'est pas possible, et regarde celui-là, il n'est que concentré sur le matérialisme. » Et tout le monde se juge les uns les autres, et là c'est la dispersion. Mais c'est de dire, Seigneur, voilà, il y a des principes qui doivent m'animer, et il faut que la vision de mon éternité, de ce que j'ai à faire pour toi, soit clair. Je vous ai dit, parfois la vision, elle n'est pas claire sur du long terme, parce que Dieu se révèle tout doucement. Mais au moins, tous les matins, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ? Rien que se poser cette question, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et là, tu vas voir, ta façon de penser va changer. Tu me suis toujours? Alors, tu es responsable, je t'avais dit, de ce que tu poursuis et de ce que tu regardes, de ce qui t'anime. Alors, le pilier 2, c'était la maîtrise de soi dans un monde livré aux passions. Donc, tout simplement, retiens la maîtrise de soi. Si tu as une vision claire, tu sais où tu vas, il faut que tu sois capable de te maîtriser et que tu sois capable de dire non à certaines choses pour rester concentré sur ton chemin. Parce qu'il y a toutes sortes de tentations, il y a toutes sortes de choses qui te sont proposées dans ce monde, depuis ton plus jeune âge jusqu'à la fin de ta vie, toutes sortes de propositions. Et si ta vision n'est pas claire, ça crée des chrétiens qui... Ah, est-ce que ce ne serait pas la volonté de Dieu d'aller par là? Alors, ils essayent, ils se trompent, ils prennent une claque, ils reviennent en arrière. Ah ben non, c'était une claque. Et puis là, ah ben là, c'est peut-être Dieu qui me propose cet emploi où je vais vraiment gagner ma vie. Et très bien de gagner sa vie, il n'y a aucun problème. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, tu n'as pas prié pour ça. Et là, tu vas t'enfoncer dans une attitude qui n'est pas celle que Dieu veut pour toi. Vous voyez, il y a toutes sortes, tu as des choix à prendre tous les jours. Et tu as besoin que ta vision soit claire. Et si c'est clair, tu es capable de te maîtriser, de dire non, ça, ce n'est pas pour moi. Tu me suis? Amen. Tu réécouteras, hein, c'était plus développé. Tu réécouteras ou tu réécouteras pas? Parce que je ne peux pas vous faire deux prédications en une, tu vois. Alors, on va attaquer maintenant le pilier 3. Et le pilier 3 est vraiment important. C'est la persévérance dans les épreuves. Parce que malheureusement, il pleut sur tout le monde. Que tu sois chrétien ou pas, des problèmes tu en auras, des épreuves tu en auras, et de savoir comment je vais réagir dans ces épreuves-là. Et là, ce qui m'intéresse, c'est Jésus. Toi, comment tu as réagi face à l'épreuve? Et là, vous allez voir que si vous commencez à vous concentrer sur les épreuves que Christ a eues lorsqu'il était sur cette terre, et comment il agissait, vous allez dire, waouh, il y a du niveau là. Là, j'ai des progrès à faire. Ça va? Alors, premier verset. C'est dans Jacques 1, verset 12. Je vais lire de ton côté, puisque je pense que je ne t'ai pas donné la bonne version. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Dans une autre version, il est dit « Heureux l'homme qui persévère, qui supporte la tentation. Après avoir été éprouvé, tu seras éprouvé. Il y aura des difficultés. » Ensuite, Luc, chapitre 22, verset 28. Vous irez lire aussi le contexte, c'est une discussion que Jésus a avec ses disciples. Et à chaque fois qu'il y avait une discussion avec ses disciples, souvent en fonction d'une réaction qu'ils ont par rapport aux circonstances, il y a une circonstance, les disciples ont une réaction, ils parlent à Jésus et Jésus leur passe un enseignement. C'est incroyable. Et donc là, il y a ce verset qui m'intéresse. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Jésus connaît les épreuves par lesquelles nous passons. Ici, il parle à ses disciples, mais je veux t'affirmer que Jésus sait par quoi tu passes. Il connaît ton cœur, il connaît les situations, il connaît les circonstances. Et il a lui-même éprouvé des épreuves. Il dit, vous étiez avec moi dans mes épreuves. Christ a eu des épreuves. Donc il sait pertinemment ce que tu vis, émotionnellement, dans ton âme, les questions, il connaît tout. Et quand tu arrives devant Dieu dans une épreuve et tu lui dis, mais tu ne réponds pas, mais c'est compliqué, mais tu aurais dû faire ceci. Jésus te calme et dit, tu sais, je suis passé par là aussi. J'ai eu des temps difficiles aussi, je sais ce que tu vis. Il ne va pas écraser tes sentiments, il ne va pas te dire que ce n'est pas bien, mais juste savoir que Jésus a eu des épreuves, qu'il sait ce qu'on peut ressentir, ben c'est réconfortant. Moi, je suis désolé, mais ça me réconforte. Parce que je me dis, Seigneur, toi, ce que tu as vécu, ce que tu as enduré, waouh, tu sais. Et ma prière, elle change. C'est plus, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. C'est, tu sais, Seigneur. Tu sais vraiment. Tu connais mon cœur. Tu sais ce que je suis en train de vivre. Je te remets ma vie à nouveau. Parce que tu vas savoir t'occuper de mon cœur dans cette situation. Et je ne veux pas douter. Amen. Donc tu dois vraiment rester ferme et persévérant. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on vit dans un monde de solutions rapides, de confort immédiat, À la moindre difficulté, on quitte un travail. À la moindre difficulté, on rompt une relation amicale ou familiale. On change d'église parce que le pasteur n'a pas pris soin de moi. Ça t'est déjà arrivé ? Non ? Moi, pas encore. C'est une blague, hein, d'accord ? On s'isole. Je vous ai déjà parlé de l'isolement. Quand on n'est pas content, on s'isole. Et là, c'est là où Satan fait le boulot. On s'isole et puis on abandonne. Les blessures deviennent quoi ? Les blessures deviennent des excuses pour ne plus avancer. J'ai mal, donc j'avance plus. Lisez des histoires, écoutez des histoires d'hommes et de femmes qui ont survécu dans la nature, blessés. Vous connaissez cette histoire de cet homme qui a coupé son bras pour sortir d'une grotte ? Ben, il tenait à la vie, cet homme-là. Là, il pouvait râler, il n'y a personne. Hein. Il a décidé d'aller s'aventurer dans la nature. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Eh ben, il s'est démené. Il a pris des positions, il n'y a pas trop, ah ça va pas, je ne vais pas bien, donc je ne vais rien faire. Il a tout fait pour survivre. Et il y a plein d'histoires comme ça. Face à la mort, on va tout faire pour survivre. Quand on aime la vie, on va mettre toute notre énergie pour dire, mais il faut que j'y arrive. D'accord ? Donc, il ne faut pas que tes blessures deviennent une excuse. Ah, je suis allé à l'église, et puis ceci, cela, il n'y a pas eu, on ne m'a pas dit bonjour, donc je ne vais plus venir. C'est une excuse. J'étais pas bien, j'aurais dû être réconforté. Le culte, c'était que la joie, la joie, la joie. Mais moi, j'étais pas bien. D'accord ? Vous l'avez vu, hein ? Dans la même église, le même jour, certains vivent un deuil, certains vivent des gloires de Dieu, certains vivent des joies. On vit tous des choses différentes. Mais Dieu s'occupe de nous personnellement. Ça va ? La souffrance, lorsqu'il y a des blessures, la souffrance souvent devient une raison pour justifier l'amertume. Je suis amer. Je souffre. Et du coup, je justifie mon attitude à cause de ma souffrance. Ce n'est pas l'attitude de Jésus. On voit les promesses de Dieu, mais on ne voit pas le combat qui va avec. On veut la gloire, mais on ne veut pas la croix. Et pourtant, Jésus a dit que celui qui me suit, qu'est-ce qu'il fait ? Je veux dire, tout est clair. Hein. Et pourtant, vous voyez, les attitudes que je cite, on les a tous vécues. Personne ne peut dire « j'ai jamais été amer » envers quelqu'un, envers une situation. Personne. Personne ne peut dire « moi, les blessures, ça ne me fait rien, je suis en titane. » Non, non, non. On a tous des douleurs. Mais notre exemple, c'est Jésus. Et Jésus nous a prévenus. Tu vas devoir, si tu veux me suivre, tu vas devoir porter certaines situations qui seront dures pour toi. Mais ton espérance, il y a cette couronne de vie que je donne à ceux qui ont persévéré avec moi. À ceux qui ont partagé mes souffrances, il y a une couronne de vie. Fixe ton regard, ta vision sur cette couronne de vie. Parce que de là, tu vas tirer ta force. À Gethsémané, on va revenir à ça. Et puis j'étais content, ce matin j'étais à l'intercession. Si vous n'êtes pas au courant, on prie à partir de 9h30 jusqu'à 10h avant le culte. Et on priait, quelqu'un a eu cette parole, on a dit, il y a eu trois paroles. Je vais vous les donner les trois durant la prédication, mais une des paroles, c'était « Souviens-toi de la croix. Souvenez-vous de la croix, que cette croix ait une valeur dans ta vie. » Parce que Jésus a réellement fait les choses. Et Jésus ressent une angoisse profonde à Gethsémané. Une angoisse profonde. Qui a déjà été angoissé ici ? Moi, j'avais rarement été angoissé. Je n'ai jamais connu l'angoisse. Mais à un moment donné, j'avais demandé la prière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait peut-être un an et demi de ça. Satan venait m'attaquer dans la nuit avec des angoisses, à transpirer dans mon lit, à sortir, à plus dormir. C'est quoi ça ? Et je savais que ce n'était pas moi parce que je n'ai pas une attitude à m'angoisser facilement. Mais sur des sujets précis, avec des pensées fortes, tu vois ton enfant là, m'en occuper. Tu vois ça ? Oh ! Ça m'a réveillé, je disais non ! Une semaine, deux semaines, trois semaines. À un moment donné, j'ai dit, il faut que l'Église prie pour moi parce que je vais devenir fou. Et il y avait un combat. Et bien, Jésus a connu ces angoisses-là encore bien plus grandes que les miennes, bien plus grandes que les tiennes. Alors Jésus, regarde ma situation. Il dira dans Matthieu 26, verset 38, je vous rappelle des choses parce qu'il faut que ça s'imprègne. C'est des choses que tu connais, mais c'est des choses qu'on a besoin de se rappeler parce que ces situations, nous les traversons régulièrement. Il dira, mon âme est triste jusqu'à la mort. L'âme, c'est tout le système qu'on a en nous, nos pensées, nos émotions, nos sentiments. C'est, tout ça, c'est géré par l'âme. Notre raisonnement, la capacité de se projeter dans l'avenir. Quand tu es angoissé, tu n'arrives plus à te projeter. Tu es comme arrêté, tu ne peux plus avancer. Tu n'arrives plus. Tu as déjà été angoissé, il y a quelqu'un qui a déjà été angoissé. Ah, c'est dur, hein. Les angoisses mènent au suicide. C'est là pour te tuer. Parce que tu ne trouves pas de solution. Jésus a connu ça. Ah, c'est réconfortant. Je ne suis pas tout seul. Et quand tu es angoissé, parfois tu vas dire, mais tu vois, il n'y a personne qui m'appelle pour m'encourager. Ça t'est déjà arrivé ou... Bah ouais. À Jésus, il n'y a personne qui l'a appelé. Hein. Salut Jésus, comment ça se passe le chemin vers la croix? J'ai l'impression que... Allez, sois fort, hein, Jésus. Il n'y a personne qui l'a appelé. Hein. Ils pionçaient, les mecs. Ils dormaient. C'est fou. Ses amis, ils n'étaient pas avec lui. Eh bien, il a connu ça. N'utilise pas les angoisses, les gens qui ne t'appellent pas, qui ne te réconfortent pas, pour justifier ta souffrance et ton amertume. Jésus a souffert. Et tu sais quoi? Dans ta souffrance, souvent, tu seras seul. Même ta femme, elle ne pourra pas te réconforter. Parce que c'est en toi. Même ton mari, des fois. Moi, des fois, Chanel, tu ne vois pas que je ne suis pas bien. Il me dit, non, tout va bien. Mais tu ne vois pas que je ne suis pas bien. Et enfin, tu peux... Vous voyez les femmes, vous avez déjà fait ça, vos hommes? Ouais, ou il n'y a que ma femme qui est comme ça? Et à chaque fois qu'elle n'est pas là, elle en prend pour son grade. Et parce qu'on a besoin, on a ce besoin de dire les choses, on a ce besoin d'évacuer ce qu'on vit à l'intérieur de nous, de ne pas garder, vous voyez? Parce que sinon, ça explose. Donc son mari, sa femme, c'est celui qui va prendre en première ligne. C'est normal. Alors Jésus, à Gethsémané, il a connu tout ça. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas fui, il a affronté son angoisse. Et c'est ça que j'aimerais que tu retiennes dans ces situations-là, la persévérance dans ces moments de solitude, dans ces moments où tu es vraiment tout seul. C'est ne fuis pas, Jésus n'a pas fui. Il est monté, il a prié le Père. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Si tu veux éloigner cette coupe de moi, mais non pas ta volonté, mais la mienne. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dieu a envoyé un ange. Il n'a pas réveillé un des disciples pour aller l'épauler, le prendre dans ses bras, dire « Mais ça va, mon petit chéri, ça va aller, je vais t'encourager. » Vous ne comprenez rien. Souvenez-vous, hein, il va être crucifié, ils vont tous se carapater. On aurait fait tous la même chose. Attention, quand je dis ça, ce n'est pas un jugement, mais hop, tout le monde est parti. Et puis là, Dieu, il va faire quoi? Il va envoyer un ange. Un ange, la réponse vient du ciel. Retiens bien ça, dans ta souffrance, dans ta solitude, attends-toi à la réponse du ciel. Il n'y a pas écarté la coupe. Et là, Jésus, dans son angoisse, a commencé à suinter des gouttes de sang. J'arrive même pas à imaginer ce qu'il a vécu. Parce qu'il savait d'avance sa souffrance. Il la connaissait, il savait dans quoi il s'était engagé. Alors, quelle est la responsabilité du chrétien? Il faut vraiment qu'on clarifie ça. Parce que c'est un sujet, je suis sincère avec vous, ça peut être un sujet de problème entre toi et tes amis, dans ta famille, ça peut être un sujet de problème dans l'Église même. Mais la réalité, c'est quand tu regardes l'exemple de Jésus, eh bien, certains combats, il les a menés seuls. Et certains combats, tu les mèneras complètement seuls. Ta responsabilité, c'est de persévérer quand tu es tout seul. Parce que Christ t'a montré l'exemple, t'a dit, je suis avec toi, j'ai vécu ce que tu as vécu, mais là, tu es dans le désert. Et c'est dans le désert qu'on forme des combattants, qu'on forme des guerriers. C'est à ce moment-là que réellement, il se passe des choses profondes en toi, parce que quand tout va bien, tout va bien. Tu as des projets, tu te projettes, tu vois. Quand tout va bien, tu te projettes plutôt que tu ne travailles sur toi. Mais quand tu es dans le désert, tu travailles sur toi. Tu es obligé. Et tu es obligé de compter sur Dieu. Et tu dis, Seigneur, toute ma confiance revient en toi. Mais si tu as des pensées négatives, et si l'un, et si l'autre, et machin, tu perds la vision des choses. Tu perds le premier point, tu perds la clarté dans ta vision. En Dieu seul, j'ai tout ce qu'il me faut. Pas dans mes amitiés, pas dans ma propre épouse, pas dans mes enfants, Mais en Dieu seul est mon espérance. Et si Dieu utilise l'un ou l'autre pour être un réconfort pour moi, alléluia. Moi, j'ai été dans les Cévennes. Et donc, je suis allé voir le musée du désert. Qui est déjà allé? Alors là, les... Seigneur, c'est notre histoire, hein, c'est l'histoire des protestants en France, c'est intéressant. Donc je suis allé voir le musée du désert, ça commence en 1500, d'accord, donc avec Calvin, avec ses histoires, et puis j'ai pris du temps, on a attendu que nos enfants soient grands pour le faire, pour prendre le temps de lire, parce que sinon, des bébés, c'est compliqué. Et j'ai acheté un bouquin, et un bouquin où je vois les lettres, les lettres que Calvin envoyait à tous ces chrétiens qui étaient jugés pour hérésie. Et quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, purée, mais si on parlait comme ça aux chrétiens d'aujourd'hui, ben, ils prendraient une claque. Parce que la réalité, c'était qu'on allait te brûler vif. Et qu'avant de te brûler vif, qu'est-ce qu'on faisait? On te passait un interrogatoire pour comprendre quel était le sujet de l'hérésie. Donc, toutes sortes de questions doctrinales pendant 10 mois, 11 mois. L'Église te... Ah! Et tu devais répondre, mais eux, ils avaient cru en cette foi, cette grâce qui ne s'achète pas, mais ils ne savaient pas encore tout expliquer, ces chrétiens. Et puis, il y a trois jeunes qui reviennent d'école biblique, qui voulaient devenir pasteurs. Sachez que les pasteurs étaient traqués. On les mettait sur le bûcher. Et ils rentrent et ils sont arrêtés. Et là, ils commencent à... Ils envoient une lettre à Calvin, et lui il répond, donc c'est en 1550 par là, et il répond, mais vous savez, si Dieu a jugé bon d'utiliser votre sang pour annoncer la vérité, acceptez simplement. Je dis, quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il leur dit là? Moi je recevrai une lettre comme ça, je serai au fond. Mais des paroles comme ça, où c'est la vérité, même si tu dois... Et c'était que la vérité. Quand je disais, est-ce qu'elle en est là, ma foi? Est-ce que je serais prêt à ça pour Dieu? Non, je suis centré sur mes petits bobos, mes petits problèmes, mes projets. Vous comprenez? Mais une foi qui a transformé le monde, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que des hommes comme ça, et ces trois-là, pendant 10 mois, interrogés, interrogatoires, et vous voyez qu'il leur répond à plusieurs lettres, il dit... Je ne peux pas vous envoyer plus de lettres parce que là, ils ne comprendront pas de toute manière, ils vont vous démonter, quoi. Mais répondez ça c'est la vérité. Au moins, vous annoncez la vérité. Et ces trois-là, ils sont allés au bûcher, vous savez comment? En chantant des psaumes, remplis de joie. Seigneur. Mais il leur parlait de Christ qui avait vécu ça avant eux et qui devait trouver leur force en Christ. En Christ seul. Waouh! Notre responsabilité, et eux, ils avaient bien compris ça, c'est de persévérer, même quand on est tout seul, même quand la souffrance nous semble insurmontable. Parce que Dieu a le dernier mot. Et parce qu'on croit que quoi qu'il arrive, il peut faire les choses même auxquelles on ne s'attend pas. Et parfois, tout simplement, eh bien, on va subir. Alors, tu dois choisir, comme Christ à Gethsémané, de te lever et de continuer. Et parfois, c'est dur. Parfois, on n'a pas la force. C'est pour ça qu'après, l'Église est là, on s'encourage les uns les autres. Mais accueille positivement les paroles des gens qui vont dire, allez, de toute manière, je comprends ta douleur, je ne la vis pas maintenant, mais tu n'as pas le choix. Il faut que tu te lèves. Si tu as besoin de moi, je serai là, mais... Faut que tu te lèves. Parfois, on est vexé de ces paroles-là. Il y a une façon de dire, vous comprenez, mais le fond, c'est ça. Reste pas là, parce que là, il y en a un qui va venir te cueillir. Si tu restes là, dans ta solitude, dans ton isolement, il y en a un qui va venir te cueillir. Il y a des mauvaises pensées qui vont germer. Tu vas partir dans un trou qui sera encore plus profond. Faut que tu te relèves. Où est ton espérance? Elle est en Christ. 2 Timothée 2, verset 3 nous dit... Supporter les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Supporter les souffrances comme un bon soldat. Je ne vais pas en rajouter, ça ne sert à rien. Alors, la clé pour s'en sortir dans ces situations-là, c'est quoi? ça va être de s'ancrer profondément dans la parole de Dieu. Parce que quand tu es dans la solitude, la seule chose qui te reste, c'est la parole de Dieu. C'est ces choses vraies, véritables, que tu as reçues, que tu as méditées, qui sont plus profondes de ton cœur et que tu vas aller, dans lesquelles tu vas puiser pour surmonter les problèmes. Et il faut que tu t'ancres. Et que tu t'ancres non seulement dans la parole, mais dans la prière. Et il faut que tu t'ancres dans cette parole avant que l'épreuve ne vienne. Parce que ce n'est pas au moment de l'épreuve, on a une génération qui est habituée à « j'ai un problème, je vais sur Google, je trouve la solution ». J'ai un problème maintenant, je demande à l'intelligence artificielle de me répondre. Moi, ça m'a choqué cette affaire. Hein. Au début, c'est, comment il s'appelle, Yannick, à La Réunion, il m'a montré l'IA. J'avais entendu parler, mais je n'avais jamais utilisé. Il me dit, regarde. Alors, j'ai dit, attends, je vais la tester, je vais lui poser des questions. Sur le parquet, sur les trucs. Il m'a sorti toutes les normes, les machins, les trucs. Alors, je dis, attends, je vais faire encore plus complexe. Bon, il n'a pas su répondre. J'étais content. Mais vous voyez ce que je dis, on trouve nos solutions, on veut de la solution immédiate. Mais la réalité, c'est que dans l'épreuve spirituelle, ce qui va faire la différence, c'est ta constance et ton ancrage que tu as eu avant l'épreuve. C'est les paroles sur lesquelles tu t'appuies, sur lesquelles tu as construit ta vie. Cette vision claire que tu as de ton couple, de ta famille, qui fait que ça te tient ferme, tu n'es pas détourné. Et on en revient au premier point, clarté, maîtrise de soi, savoir dire non à certaines émotions qu'on peut même ressentir. Et puis quoi ? Persévérer, je ne lâcherai pas parce que je veux m'en sortir. Alors, ce n'est pas dans l'épreuve que tu vas apprendre à nager, c'est avant. Ok ? Retiens cette image. Retiens les promesses de Dieu. Garde tes yeux fixés sur la couronne de vie, pas sur la douleur et ne cherche pas une issue de secours. Ok ? Cherche la force d'avancer. Et en fait, c'est ça qui m'a interpellé dans ces livres, c'est que jamais Calvin ne propose une issue de secours. Vous voyez qu'il se démène. Ils envoient des lettres, ils se défendent. Ils ne sont pas en train de rien faire, ils se défendent. Mais il ne dit pas, tu vas mentir, comme ça peut-être qu'ils vont t'éviter. Non, tu diras la vérité. Ils n'ont jamais cherché une issue de secours. Et moi, c'est ça qui me... Je dis, quoi ? Bah, sans Christ en toi, tu ne vas pas. Hein. T'évites, tu renies même. Aujourd'hui, dans le monde entier, beaucoup de chrétiens sont persécutés. On leur dit, reniez votre foi maintenant. Si vous ne reniez pas, vos enfants, là, on les enterre. C'est des réalités, lisez un petit peu, hein. Porte ouverte, vous allez être choqués. Alors, Hébreux 10, verset 37, « Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. » Ce n'est pas moi qui l'invente. Lisez bien. « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, dans vos situations, dans vos circonstances, dans votre travail, que vous ayez réellement compris ce que Dieu voulait faire en vous faisant passer par là, ce qui devait changer en vous, ce qui devait travailler en vous, que vous avez compris ça, vous avez accompli ce que Dieu attendait de vous, vous n'êtes pas lamenté, vous n'avez pas pleurniché, quand je dis pleurniché, attention, on pleure. Quand je dis pleurniché, c'est râler de la situation, c'est se plaindre d'eux. Mais de dire, ok, je suis dans cette situation, je ne cherche pas une issue de secours. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce qui doit être profondément bouleversant en moi ? Comment tu veux me travailler ? Et comment je vais agir différemment à partir de là ? Et bien là, qu'est-ce qu'il y a ? Et bien, tu obtiendras ce que Dieu t'a promis. Toutes ces belles promesses là-haut qui sont stockées dans ton coffre-fort. Hop ! Merci Seigneur. Ben, vous voyez, ça, ce n'est pas à la croix que ça se passe. C'est acquis à la croix. Mais c'est dans ta marche avec Christ que tu l'obtiens. Dans ta manière de vivre que tu l'obtiens. Tu ne peux pas juste dire, Seigneur, parce que j'ai cru en toi, ben maintenant tu dois faire ceci, cela dans ma situation. Ben là, porte fermée. OK ? Alors, pilier 4. Pilier 4, c'est la prière fervente. Tu me suis ou tu as trop chaud ? Moi, j'ai trop chaud. J'aurais dû venir en short. Ah non, c'est les pasteurs américains qui font ça, non ? Short caquette. Chemise hawaïenne. Je suis américain. Alors, je reste français. Voilà. Petite blague. Hein. Alors, pilier 4, la prière fervente. 26, 41, c'est pas moi qui l'invente. À nouveau, allez lire le contexte si ça vous intéresse. Il parle à ses disciples et il y a tout un contexte. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire ? C'est au moment justement hein, de toute cette situation. Il va leur dire « Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation ». C'est très clair, c'est Jésus qui te dit, tu as besoin de veiller et prier. Ensuite, Luc 5, verset 16. Jésus se retirait dans le lieu désert et priait. Si Jésus lui-même a prié, comment ça se fait que moi je peux passer un jour, deux jours, trois jours, une semaine, un mois sans prier? Et en parallèle, Seigneur, ça ne va pas, je ne suis pas content, je n'ai pas mes promesses. C'est un non-sens, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on vit quand même dans une époque où on prie quand on en a besoin. C'est juste ou c'est pas juste? On prie quand on en a besoin. Seigneur, j'ai besoin d'une augmentation et là, d'un coup, ta prière, elle est fervente. Là, t'es motivé. Alors, on prie souvent pour que Dieu réponde, mais pas pour que Dieu règne dans notre vie. Écoute bien ça. Tu pries souvent pour que Dieu réponde, mais tu pries rarement pour que Dieu règne dans ta vie. C'est parce que tu as peur. Quand tu dis, Seigneur, viens régner dans ma vie, là, c'est dangereux. Parce que tu lui ouvres une porte, il va aller chercher des choses qui sont bien planquées là-bas. Là. Et lui, il dit, tiens, va ouvrir cette porte-là. Là. Il y a quelque chose qu'il faut régler. Hein? C'est ce qui se passe quand on demande le règne de Dieu dans notre vie, dans nos pensées. Ça, on s'implique. Alors, la prière, c'est devenu un peu un outil de secours. C'est un SAV céleste. Allô, problème ? 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, faut intervenir, envoie les pompiers. La prière, ce n'est plus le centre vital de ta foi et de ta communion. Alors que la prière, c'est le centre vital de ta foi et de ta communion avec Dieu. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de communion. Et pourtant, tu crois en Jésus à la croix, ressuscité, tout ça. Mais Satan, il croit la même chose. Et il n'y a pas de communion avec Dieu. D'accord ? C'est pour ça que je dis tout commence à la croix. Mais tout vraiment se met en place dans ta marche. Tu me suis ? Alors les conséquences, quand il n'y a plus de prière, je vais te les donner, comme ça tu pourras cibler un peu les choses dans ta vie. Quand ces conséquences arrivent, c'est qu'il y a un manque de prière. Les conséquences, c'est une foi sans puissance. Tu pries, il ne se passe rien. C'est des croyants fatigués. Fatigués à tout niveau. Fatigués. Au niveau, c'est un sentiment humain, mais c'est une fatigue plus profonde. Ensuite, c'est la tentation qui frappe souvent à ta porte. Ah, j'ai du mal, et cette semaine, comme par hasard, j'ai vraiment eu envie de faire ça plus que d'habitude, et pourtant je sais que ça ne te plaît pas, Seigneur. Il manque de prière. Ensuite, c'est des croyants inconstants. Un jour, ils ont le feu, un jour, ils ne sont pas bien, un jour, ils ont le feu, un jour, ils sont... C'est l'inconstance qui règne. Ensuite, ça va être le... c'est les conséquences d'être déconnecté de ta source. Si tu es déconnecté de ta source, c'est ce qui t'arrive. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des semaines où vous dites « Ah, j'ai pas ce truc, je suis un peu en dessous. » Et quand vous vous remettez à prier, ah, il se passe quelque chose. Moi, à chaque fois que dans les fondamentaux, je dis aux gens « Mais mettez une discipline en place. » Qui commence. « Ah, mais c'est vrai que je me suis réveillé tous les matins, j'ai prié. » J'ai prié et il se passe quelque chose de différent. Je sens que je suis mieux que ma semaine. Même s'il y a des difficultés, je suis mieux en fait. Tu l'as vécu ça ou pas? Pourtant, quand tu relâches un peu, tu t'habitues à ce relâchement. Tu vois, c'est... T'as pas envie forcément de retourner dans la prière. C'est comme ça qu'ils disent « j'aime pas lire ». Moi, j'aime pas marcher. Pourtant, tout ce que je dois faire dans la vie, je dois marcher. Hein. D'accord? T'aimes pas lire, tu veux vivre de la vie spirituelle, il faut que tu lises ta Bible. T'as pas le choix. Hein. On n'est pas dans l'envie, pas envie. Eh bien, la prière, c'est pareil. Il n'y a pas d'envie, pas envie. Tu dois aller rencontrer ton Père. Et ça se passe par la prière. Et dans la prière, tu sais quoi, t'es seul. T'es seul aussi. On peut faire la prière en famille, en couple, avec l'Église. Mais quand t'es tout seul dans la prière, c'est là où vraiment ta communion grandit. C'est là où il se passe vraiment des choses profondes. Moi, quand je prie un peu moins, je le sens tout de suite. Aujourd'hui, on trouve du temps pour Netflix, TikTok, Instagram, mais on n'a pas le temps de prier. Les jeunes, vous n'avez pas le temps de prier. Eh bien, quand tu n'as pas le temps de prier, retiens bien cette phrase, quand tu n'as pas le temps de prier, c'est là que commence la défaite. La défaite commence quand tu n'as pas le temps de prier, quand tu es surchargé, quand tu ne prends pas ces temps à part, quand tu ne te réveilles pas, quand tu ne prends pas un temps. La réalité, c'est que Jésus a commencé sa journée à genoux et il a fini à genoux. Voilà notre exemple. C'est là que la défaite commence. Elle ne commence pas dans le péché, ta défaite. Elle commence dans le manque de prière, dans l'absence de prière. Ça va ? Alors Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de prier. Il passait des nuits entières dans la communion du Père, avant de prendre des décisions, avant la croix, à Gethsémané. Il aurait pu fuir, négocier, abandonner, mais il a choisi d'aller dans la prière. Même quand il suait des gouttes de sang, il était en prière. Moi, les premières fois que j'ai eu l'angoisse, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas prié, hein. Je suis sorti de mon lit, j'ai été prendre une douche, je suis remonté dans mon lit. Ce n'était pas instinctif, la prière. Pourtant, ça doit devenir instinctif, quoi que tu fasses. Chaque décision, chaque moment, Seigneur, que ton règne se fasse. Amen. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il nous dit « Priez sans cesse ». Ensuite, Hébreux 4, 16 nous dit « Approchons-nous avec assurance du trône de grâce ». Je peux aller, c'est ouvert à la croix de Golgotha. Le trône de grâce est ouvert et pourtant on n'y va pas. Pourtant, c'est là que ça a ouvert, c'est là que ça a commencé. Je peux aller à la croix dans chacune de mes situations, à chaque moment de ma vie. Et pourtant, on dit, mais je vais faire par moi-même, je vais aller voir l'IA, je vais demander à un collègue, je vais aller voir le pasteur, je vais aller voir un ancien, il va me donner une solution. Et s'il y a un grand prophète à la mode, alors là, j'ai besoin de ma prophétie. Et on court partout, mais on n'est pas dans la prière. Là où Jésus t'attend, seul, tout seul. Là où c'est pas fun d'être avec les copains, tu vois. Il y en a, ils prient que dans les réunions de prière, chez eux, ils prient pas. D'abord chez toi. Et après, tu développes ta foi avec l'Église, avec tes frères et tes sœurs. Ça va ? Tu ne peux pas prétendre vivre la victoire sans l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas résister à la tentation. Tu ne peux pas recevoir la paix. Tu ne peux pas te tenir dans la prière debout. Tu n'auras pas la paix. Ah, je ne suis pas bien, pasteur. Bah, la première chose, c'est est-ce que tu pries ? Souvent, l'erreur que je fais, moi, c'est bah, pourquoi tu n'es pas bien ? Maintenant, je vais te dire, tu vas me dire, je ne suis pas bien, est-ce que tu pries ? Le pourquoi, peu importe, prie, Dieu a la réponse. Et trop souvent, on utilise le pasteur comme s'il sait tout, il va m'aider, il va me consoler, il va machin. Moi, je ne sais pas tout. Par contre, j'en connais, il sait tout. Il sait ce qui se passe au plus profond. Est-ce que tu as prié profondément ? Je ne sais pas prier. Bah, viens, on va passer du temps de prière. Tu me dis, je ne sais pas prier, j'ai besoin d'apprendre, je peux t'assurer, on est tous les deux une semaine à 6h30 ici, tu vas apprendre à prier. Parce que c'est comme ça que moi j'ai appris. Moi, quand j'ai eu besoin de prier, tu sais comment ça s'est passé ? On rénovait la maison là-bas. Et puis, j'ai dit, Seigneur, voilà, j'ai ce besoin de prier, je sens que j'ai besoin de cette... Et au début, je priais 3 minutes. Et après, et chaque fois, je priais dans la voiture, j'avais une demi-heure de route, 3 minutes. Après, pendant une semaine, 5 minutes, 10 minutes. Et au bout de 2 mois, j'avais plus assez du trajet pour prier. Il n'y avait plus assez de 30 minutes parce que ce temps était tellement important où j'étais fortifié, j'entendais Dieu me parler, il commençait à fortifier des choses en moi. Je vivais des choses profondes et c'était entre Dieu et moi. Ça a commencé par 3 minutes. Et après, Dieu a commencé à susurrer à mon oreille. Et tu ne ferais pas ceci, tu ne ferais pas comme ça. Je commençais à développer l'oreille spirituelle, à savoir ce qu'avait mis en moi. Ça a commencé dans la prière. La prière, c'est constituer de quoi ? C'est un grand mot pour dire parler à Dieu, c'est organise-toi. Tu mets un temps de louange pour te disposer. Tu te mets dans une pièce à part, dans ta voiture, peu importe, dans tes toilettes. Ou tu prends un endroit et tu dis, Seigneur, ce temps, c'est entre toi et moi. C'est précieux, c'est sacré, c'est le lieu très saint entre nous. Et même si ma femme, elle me dit que je dois sortir de là, c'était mes 10 minutes, on était d'accord, c'est mes 10 minutes. Il faut commencer par ça. Ça va ? La prière n'est pas une option les jours difficiles. Retiens ça, la prière n'est pas une option les jours difficiles, c'est la respiration du vainqueur. Amen. La respiration du vainqueur, c'est la prière. Jésus, il respire, il prie, il a été jusqu'à la croix de Golgotha, il est vainqueur et c'est pour ça qu'on est là. Ah ! Fais de la prière une priorité, pas un secours. Structure ton temps de prière, je vous l'ai dit. Choisis un lieu, je vous l'ai dit. Et prie même quand tu n'as pas envie. Tu notes sur une feuille, je ne sais pas, tu fais comme tu veux, prie même quand tu n'as pas envie. Et ensuite, entoure-toi, je vous l'ai dit aussi, de croyants qui prient. Des gens qui ont une vie de prière, parce que tu vas voir la différence. Et la foi des autres t'élèvera. Quand tu vas voir comment certains ont prié, sont passés par des épreuves, ça va te fortifier. Jean 15, verset 17, on terminera par ce verset. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demanderez ce que vous voudrez. » Une fois que ta vie de prière est implantée, alors là, tu peux commencer à prier pour des situations qui dépassent ta sphère personnelle. Tu peux commencer à dire, Seigneur, là, il se passe quelque chose dans cette famille. Je vais me mettre dans la prière, je vais me mettre dans le combat pour telle vie, pour telle situation. On va remporter la vie. Tu peux commencer à soutenir ceux qui sont un peu plus faibles, qui ont besoin d'exemples. Mais si toi-même, tu pries jamais, tu es tout le temps en train de demander, en fait. Et un soldat, c'est quelqu'un qui sait où il va, il sait comment combattre, il sait tenir ses armes. Ce n'est pas quelqu'un qui se pose 1000 questions. Il y a une situation, il intervient. Les pompiers ne réfléchissent pas 10 minutes. J'étais sur un chantier avec mon frère. Et puis là, d'un coup, on entend « boum !» Je dis « c'est pas possible. » C'était tellement fort que j'ai cru qu'une machine à laver était tombée d'un mètre sous le sol juste au-dessus de moi. J'arrête de travailler, donc j'étais avec ma grosse machine qui fait du bruit, mon casque. La vibration, j'ai senti. Je sors dehors, et là, je vois Marc-en-Barœul, un appartement qui a explosé. Les châssis ont été projetés, plantés dans les maisons en face. Il y a le feu. Là, je m'approche, il y a une femme choquée. Elle est en voiture, ça a explosé au moment où elle passe. Je dis, madame, venez là. On était les premiers arrivés. Et là, je vois un homme dans l'appartement. Je dis, qu'est-ce que je fais? Alors, avec mon frère, on s'avance. Je crie, monsieur, sortez! Il rangeait, il remettait les portes et tout. Explosé. Et puis là, les pompiers sont arrivés. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils ont sécurisé. D'un coup, il y avait peut-être 50 personnes sur le lieu. Il y avait une armée entière qui répondait aux besoins. Eh bien, on est à plat, ça. Il y a un problème. On est là. On ne discute pas. Je suis fatigué. Je ne suis pas bien. Tu sais, je suis pris dans mon travail. Wilfried a un problème. Il demande la prière. On va prier pour lui. On va le mettre dans... Vous comprenez, c'est ça. Après, on sort de notre petite sphère personnelle et on dit, Seigneur, je veux m'engager dans le combat même des autres. Et il faut commencer à rentrer dans ça parce que c'est ce que Jésus veut pour nous. Il veut qu'on remporte des victoires, que son règne se fasse dans nos vies et que réellement sa puissance s'accomplisse dans certaines situations. Alors le troisième point qu'on a eu ce matin à l'intercession, c'est le deuxième, c'était que certaines personnes vraiment étaient dans certaines situations et que le Saint-Esprit voulait réellement vous fortifier. Alors reçois cette parole-là. C'est pour ça qu'on a prié. Si tu as besoin d'être fortifié, c'est entre toi et Dieu. Alors j'ai dit la première, j'ai dit la deuxième et la troisième, c'était la fécondité. C'est tu es appelé en tant qu'enfant de Dieu, si tu respectes ces piliers-là, les sept, pour l'instant on en a vu quatre, mais que tu es sérieux, que tu t'engages, que tu fais les choses à fond, que tu dis Seigneur, ton règne dans ma vie, transforme mon cœur, eh bien c'est quoi? C'est que Dieu s'attend de toi que tu sois fécond dans tous les domaines de ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas passer dans des épreuves, mais tu vas être fécond. Parce que Dieu est la vie, cette vie est en toi. Et si tu es vivant, il y a des choses vivantes qui sortent de toi. C'est très simple. S'il n'y a rien de vivant qui sort de toi, que toutes tes paroles sont négatives, qu'il ne se passe rien, c'est qu'il faut qu'il y ait plus Christ en toi. Mais s'il est en toi, il faut que tu sois fécond dans ton travail, fécond dans tes études, les jeunes. Vous allez réussir avec Dieu. OK ? Ou Dieu vous orientera différemment. Mais vous allez être fécond dans vos couples, avec votre famille, vos enfants. Vous serez fécond. Ça va? Amen. Amen. Je m'arrête là dans la prière, s'il vous plaît. Alors Seigneur, je veux prier pour l'Église.